Si vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, 2 Rois 6, et on va lire ensemble les versets 1 à 7. 2 Rois 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent au prophète Élisée, « Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop exigu pour nous. S'il te plaît, allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous ferons un lieu pour s'y assembler là. » Il répondit, « Allez. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec nous, je te prie. » Il répondit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, maître, c'était un emprunt !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit flotter le fer. Puis il dit, « Reprends-le. » L'autre tendit la main et le prit. On va prier ensemble. Seigneur, encore un texte devant nous qui ne semble pas avoir d'application pratique pour nous, aucune relation concrète avec ce que l'on vit, nous, chrétiens du XXIe siècle, et pourtant on le retrouve dans ta parole, dans l'Ancien Testament, dans un ouvrage que tu as jugé bon de nous faire parvenir jusqu'à nous et par lequel tu te plais à nous instruire, en ayant inspiré tes prophètes, Seigneur, en ayant inspiré ceux qui ont parlé selon toi. Seigneur, on veut te prier pour que ce texte que tu nous transmets et que tu nous as donné puisse nous instruire, nous parler, nous montrer quelque chose de spécial te concernant, afin que nous ressortions d'ici non seulement nourris, mais conscients que tu nous appelles à quelque chose de particulier en tant que peuple de l'Alliance, Seigneur, en tant que croyants qui se soumettent à toi. Nous voulons te demander ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Effectivement, c'est le genre de texte que l'on lit dans le cycle d'Élie et d'Élisée, et on se dit, waouh, super, on a quelqu'un qui fait un miracle, qui fait surnager un morceau de fer, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est dans l'Ancien Testament ? Pourquoi est-ce que ça nous parvient ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un texte comme celui-ci ? Alors certainement, il y a quelque chose de miraculeux. On a Dieu, Yahweh, qui vient à la rencontre des besoins des siens. On sait qu'il est sensible aux besoins des siens. On sait qu'il peut les secourir dans la détresse. Et à vrai dire, si c'est le cas de ce qu'on trouve ici, si c'est un miracle qui va dans ce sens-là, eh bien le récit n'introduit rien de nouveau de ce point de vue. Et donc, si on a vu des délivrances qui ont été spectaculaires dans les chapitres précédents, bah, franchement, ici, le lecteur, à ce stade, il n'est même pas surpris. Il se demande même pourquoi est-ce que c'était bon d'introduire cette histoire dans le texte. Après tout, tout ce qui est écrit là, on le savait déjà. Bref, c'est pas la peine de nous répéter ces choses-là. Mais je pense qu'il y a ici une leçon particulière. Après tous les miracles qu'on a vus, après toutes les grandes choses dans lesquelles le prophète Élisée et son prédécesseur Élie se sont illustrés, la leçon qui se trouve ici, c'est probablement que Dieu n'est pas à nos côtés uniquement dans les grandes batailles. Dieu n'est pas à nos côtés uniquement dans les grandes choses, mais dans les tâches les plus pratiques, il est encore avec ceux qui sont en alliance avec lui. Et c'est ce qu'on va voir finalement aujourd'hui dans ce texte qui, de prime abord, vous paraît peut-être insignifiant, mais qui, mine de rien, a une leçon très importante à nous rappeler. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, verset 1, c'est que les fils des prophètes sont trop à l'étroit. Les fils des prophètes sont trop à l'étroit et aussi rapide et bref que c'est donné dans notre texte, il y a des éléments qui nous montrent que quelque chose est en train de se produire dans cette communauté. Peut-être que la première chose qu'il faut rappeler ici, c'est ce qu'est cette communauté de prophètes, ces fils des prophètes. Vous vous souvenez qu'on a rencontré cette expression à plusieurs reprises dans le cycle d'Élie et d'Élisée jusqu'ici. Et je vous avais déjà expliqué que c'était un groupe de croyants qui est fermement et exclusivement attaché au culte de Yahweh. Vous vous souvenez, on est au 9e siècle avant Jésus-Christ, on a le royaume d'Israël qui a été divisé en deux après la mort de Salomon. Vous avez au nord 10 tribus, au sud 2 tribus. Le sud est resté relativement conservateur dans sa manière d'adorer Dieu avec le temple, mais le nord est complètement parti à la dérive en introduisant de l'idolâtrie, des veaux d'or, bref, en prenant le contre-pied, en allant à l'encontre de ce que Dieu leur demandait dans sa parole. Et dans ce royaume du nord, l'action se situe là, eh bien vous allez avoir des gens qui demeurent pieux, qui veulent servir Dieu, pour certains qui sont des prophètes, qui reçoivent des révélations spéciales de la part de Dieu, et ils vont, à cause de la persécution, à cause des difficultés qu'ils expérimentent, se regrouper en communauté. Alors, ce n'étaient pas des prêtres, ce n'étaient pas des moines, ils étaient mariés. Apparemment, c'est ce qu'on a vu il y a à peine 2 semaines, les prophètes étaient mariés, il y en avait un qui avait laissé une veuve derrière lui. On a l'impression que c'était donc des familles qui fuyaient une persécution, qui se rassemblaient ensemble, un peu à la manière des églises dans les régions qui sont persécutées de ce monde, où finalement on est complètement exclu lorsqu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci. Mais donc ces familles, cette communauté, avaient un peu tendance, il faut le dire, à se replier sur elles-mêmes, parce qu'à l'extérieur, ce n'était que difficultés, famine, persécution. Bref, ces communautés restaient ensemble. Et donc, quand vous voyez cette mention dans le livre des rois des fils des prophètes, souvenez-vous qu'il s'agit d'une communauté persécutée, faible, pauvre, mais qui voit la grâce de Dieu se manifester d'une manière spéciale à leur égard, non seulement par la parole qu'il leur est révélée, mais aussi, nous l'avons vu dans les semaines précédentes, à cause des grands miracles par lesquels Dieu agit au milieu d'eux. Donc ça, on l'a vu ensemble, mais vous vous souvenez aussi, on l'a vu dans les textes de ces dernières semaines, d'autres personnes que les prophètes s'étaient joints à ces communautés, notamment les gens qui ne voulaient pas se soumettre au culte idolâtre, à la fausse croyance qui avait cours dans le royaume du Nord. Vous vous souvenez sûrement de cet homme, vous vous souvenez dans l'épisode de cette marmite empoisonnée, il y a un homme qui arrive de Baal Shalisha et qui ramène des pains d'offrande, et on se souvient que ces offrandes étaient destinées au culte de Samarie, au faux culte du royaume du Nord, et cet homme les ramène donc auprès des prophètes pour qu'ils puissent les consommer. C'était un acte de résistance, mais aussi une façon de faire allégeance à cette communauté. Et donc, les prophètes recevaient des gens de l'extérieur, mais on a vu aussi que les prophètes étaient capables de former, comment on pourrait appeler ça, des apprentis. On a vu que ce Géasi, vous vous souvenez de Géasi, cet homme qui était si pervers, cet homme qui avait une volonté de voler l'argent de Naaman lors de sa guérison, eh bien ce Géasi, il était l'apprenti, le serviteur d'Élisée. Il était, aussi surprenant que cela puisse paraître, le même type d'apprenti qu'Élisée avait été auprès d'Élie. Élisée avait appris beaucoup de choses de la part d'Élie, il avait même reçu la succession d'Élie, mais il semble que Géasi n'avait même pas reçu l'Esprit de Dieu pour le suivre. Et donc ce Géasi, que nous ne connaissons pas à l'origine, était en quelque sorte un apprenti, et ça semble indiquer que ce mouvement des fils des prophètes était, je dirais, animé d'une logique de formation, peut-être je devrais parler d'une logique de discipula, comme si ces communautés pratiquaient, sous une forme embryonnaire, ce que nous, Église, sommes appelés à faire, à savoir faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples. Et ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est qu'il n'y a rien de nouveau entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans le mode opératoire de Dieu pour former les siens, pour établir ses communautés. C'était déjà le cas 9 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, il est très probable que de nouvelles personnes venues de l'extérieur étaient, elles aussi, intégrées aux communautés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'au sein de la persécution, au sein de la famine, à un moment où tout s'opposait aux personnes qui voulaient suivre Dieu à la manière dont Dieu avait expliqué qu'il fallait le suivre, eh bien, au sein de ces communautés qui étaient presque mourantes, eh bien, on voit des personnes qui s'ajoutent et une communauté qui grandit. Et c'est incroyable de voir que l'oppression du royaume du Nord cherche à éradiquer ses prophètes. Vous vous souvenez sous Akab ce qui se passait? On voit que la persécution fait rage, et ce qui transparaît dans l'information du verset 1, c'est que les fils des prophètes disent devant lui « Le lieu où nous sommes rassemblés devant toi est trop étroit. On ne tient plus devant toi. On a une salle où tu avais l'habitude de t'asseoir en face de nous pour nous enseigner, et aujourd'hui dans cette salle, on ne tient plus. » Alors j'aurais aimé vous faire un parallèle avec la salle dans laquelle on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on est au mois d'août, et nous sommes une église qui vient de s'installer dans cette salle, mais plaise à Dieu que dans un an, on puisse dire la même chose, le lieu dans lequel nous sommes réunis est trop étroit, construisons un balcon, si vous voyez ce que je veux dire, ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils étaient en train de vivre, ils étaient trop nombreux, ils étaient en croissance, et apparemment, dans cette espèce de local où ils se rassemblaient, un lieu de vie dédié à l'enseignement, eh bien, ils ne tenaient plus. Donc, on a une communauté qui grandit, on a une communauté qui semble se former, qui reçoit des enseignements autour de la doctrine de Yahweh. Tout ça au beau milieu de la persécution et on a un bel exemple d'église qui grandit. Et vous vous dites, c'est pas la marche normale. La marche normale pour qu'une église grandisse, c'est une super louange, un prédicateur dynamique comme Guillaume Bourin le dimanche après-midi quand il a dormi que 2 heures la veille, tu vois. Et vous vous dites, c'est ça qu'il nous faut pour qu'une église grandisse, pour qu'une communauté grandisse de manière profonde et enracinée. Eh bien, chers amis, non. Non seulement la parole de Dieu ne confirme pas ces propos-là, mais surtout, les faits invalident ce genre de présupposés. Et si je vous demandais cet après-midi, quels sont les deux pays où, en proportion, la foi chrétienne a le plus grandi en 2017-2018? Si je vous demandais quels sont les deux pays où, en proportion, il y a eu le plus de conversions, où la foi chrétienne a le plus grandi en 2017 et en 2018, eh bien, vous seriez peut-être surpris d'apprendre que c'est l'Iran et l'Érythrée. Des pays où la persécution est intense, des pays où même avec la meilleure louange du monde, vous n'arriverez pas à attirer les gens à Christ, des pays où il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu et les gens, contre toute attente, avec très peu de formation, mais avec quelque chose de spécifique, qui est la grâce de Dieu qui agit dans ces pays, qui se tournent vers lui et on voit dans la persécution la plus forte, notamment en Érythrée plus qu'en Iran, des communautés de foi qui grandissent, qui se cachent, qui se dissimule exactement comme celle que nous avons ici dans ce récit de deux rois. Et ces personnes croient en Dieu, plient le genou devant lui et cherchent à l'adorer à la manière dont il veut être adoré, renonçant à l'idolâtrie et aux choses semblables pour se tourner vers lui par la grâce de Dieu. Et donc, ici, encore une fois, nous voyons que ceux qui veulent vivre pieusement vont parfois expérimenter des situations comme celle-ci. Mais ce n'est pas un obstacle à la croissance, ce n'est pas un obstacle à la qualité des personnes qui se tournent vers lui, ce n'est pas un obstacle à ce que Dieu fasse son œuvre. Et cela, chers amis, ça transcende l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu agit sans égard pour les circonstances et dans les moments où vous semblez être le plus près de lâcher prise, c'est à ce moment-là que Dieu secourt d'une manière spéciale et intervient souvent dans des schémas ou des perspectives que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ainsi donc, les fils des prophètes sont trop à l'étroit et ce simple verset d'emblée nous renseigne sur la santé spirituelle de cette communauté des fils de prophètes et de ceux qui se rassemblaient avec eux à ce moment précis, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc cette communauté étant trop à l'étroit, la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est très logique en fait ce texte, c'est que l'un des prophètes se propose de construire un nouveau lieu de vie. L'un des prophètes se propose de construire un nouveau lieu de vie. Regardez le verset 2. Il s'approche du prophète et il dit, il dit, s'il te plaît, allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous ferons là un lieu pour s'y assembler. Et il leur répondit, allez. Il semblerait que ces prophètes pratiquaient quelque chose que nous ne pratiquons pas ici à l'Église réformée baptiste de la Trinité. Ils pratiquaient la communauté de biens. Il semble que, en fait, ils en étaient dans une situation où ils mettaient tous leurs biens ensemble et avec le peu qu'ils avaient, ils arrivaient à survivre en partageant une marmite, en construisant un nouveau local. Bref, c'est comme ça qu'ils sont passés, en quelque sorte, à travers l'épreuve, j'allais dire l'épreuve économique qu'ils étaient en train de vivre. Et très franchement, quand on commence à regarder les choses sous cet angle dans ce texte, il y a peut-être un parallèle qui vous a immédiatement sauté aux yeux, c'est avec cette communauté à Jérusalem qui, au commencement, encore une fois, sous la persécution des institutions religieuses, se rassemblait et vivait la même communauté de biens. Si vous avez noté le parallèle, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il s'agit ici d'un texte descriptif. C'est une pratique qui s'est faite par la force des choses et il n'y a absolument aucun commandement dans ce texte ou même dans les récits du livre des Actes par rapport à la communauté de Jérusalem, de mettre tous vos biens en commun. Il n'y a aucune recommandation, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la vie chrétienne que nous vivons ici au Québec ne nous invite pas à faire ces choses-là. Ce n'est donc pas un modèle à observer. À aucun moment, il n'est demandé aux croyants de l'Ancien Testament ou aux chrétiens de se rassembler ensemble, de s'enfermer dans une communauté de foi et de volontairement s'isoler. Bref, revenons au texte. Un prophète donc demande l'autorisation à Élisée d'engager la communauté tout entière dans des travaux d'agrandissement. Cette communauté n'a pas de ressources, et sans doute n'a aucune relation pour embaucher des travailleurs, elle n'a probablement pas les moyens d'embaucher le moindre travailleur afin de construire une nouvelle structure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un croyant yahouiste du 9e siècle avant Jésus-Christ et qu'on veut un nouveau lieu de vie? Eh bien, il faut prendre ses outils, il faut aller là où il y a du bois, couper du bois, tailler le bois et monter un nouveau bâtiment. Apparemment, les fils des prophètes entendent construire près du Jourdain. Je ne sais pas s'il faut y voir une signification particulière, mais souvenez-vous que le Jourdain, c'est la frontière entre Israël et le pays de Moab, et il semble que de plus en plus, la communauté persécutée part à l'extérieur d'Israël, au point d'en arriver à la marge, en quelque sorte, c'est-à-dire toujours un peu plus loin des villes, toujours un peu plus loin de la population. Mais Élisée sait que la communauté est à l'étroit, il n'a aucune objection, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Allez-y, commencez à vous organiser et construisez ce lieu de vie. » Mes chers amis, le premier prophète qui lui a fait cette demande est probablement quelqu'un de très poli, très réservé, et un autre qui est un peu moins réservé et un peu moins poli s'approche de lui et il va directement au but, il lui dit « Est-ce que tu ne voudrais pas venir nous donner un petit coup de main quand même ? Ça serait sympa. » Quand vous regardez la séquence, elle est assez humoristique en fait. Vous avez un prophète qui vient voir Élisée, Élisée lui dit « Ouais, vas-y, un peu comme un chef qui ne travaille pas, vous voyez ?» Et le deuxième prophète s'approche et lui dit « Viens nous aider, s'il te plaît. On a besoin de bras, on a besoin de mains. » Il semble bien que la requête initiale, elle était très polie, mais que Élisée n'avait pas compris qu'en fait, le premier prophète l'invitait à se joindre à la tâche, pas simplement à solliciter son accord. Alors, c'est un peu marrant, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai une amie en région parisienne qui s'appelle Suzanne, et elle fréquentait l'église arabophone dans laquelle j'ai rencontré mon épouse Élodie. Et dans cette église arabophone, il fut un temps où je donnais régulièrement des prédications et il m'appelait Assis, pasteur, vous voyez. Alors, il y avait souvent des visiteurs qui venaient. Et puis un jour, Suzanne, qui avait un véhicule de société, s'est garée devant l'église. Et juste après le culte, quand on est tous sortis, quelqu'un avait cassé son carreau, avait volé des outils dans sa voiture. C'était tellement déplorable. Il y avait du verre partout et Suzanne était vraiment découragée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, je suis rentré dans l'église, c'était l'église, c'était mon bâtiment en quelque sorte. Donc je savais où étaient les choses, j'ai ramassé une pelle, j'ai ramassé un balai, j'ai commencé à balayer et j'ai commencé à ramasser le verre. Et là, je vois 4 ou 5 personnes en train de me regarder comme ça. Et ça se parle en arabe, donc je ne comprends rien, bien évidemment. Et Suzanne se met à éclater de rire, elle se tourne vers moi et me dit « Ils sont trop touchés que toi, le pasteur, tu balayes !» Ils n'en revenaient pas que je daigne aller chercher un balai, ramasser une pelle et que je me mette à l'œuvre pour travailler et faire une tâche aussi insignifiante que ramasser du verre cassé par terre. Et j'aimerais vous donner un scoop. C'est qu'à cette époque, ça m'arrivait aussi de nettoyer les toilettes de l'église en tant que pasteur et ça ne me posait aucun problème. Je crois que c'est un rappel qu'il n'y a pas de statut privilégié dans l'Église, il n'y a pas de statut privilégié dans cette communauté de prophètes. Et quand on regarde ces pasteurs de prospérité qui voyagent en jet privé, en voiture de luxe et qui ont un service du protocole pour les accueillir avec une limousine qui se gare devant un tapis rouge déroulé et des gens qui sont avec des gants blancs et qui font comme ça pour accueillir un pasteur. Tandis qu'il sort de sa voiture, il leur serre la main et il est accueilli comme un prince avec limite presque, j'ai envie de vous dire, des pom-pom girls en train de secouer des... n'importe quoi. Comment on peut tomber en lisant les Écritures et en proclamant un christianisme qui consiste à niveler les personnes et à les renfermer tous dans la condamnation du péché pour dire que nous avons obtenu la même grâce et privilégier des personnes et les mettre sur un piédestal à ce point-là? C'est manifestement pas le choix d'Élisée. Et vous vous souvenez qu'alors qu'il aurait pu s'enrichir en prenant l'argent de Naaman, il a refusé de le faire. Il l'a renvoyé avec son argent. La bénédiction ne se monnaie pas. Et vous avez vu la conséquence de ce qui est arrivé à Géasi dans le chapitre précédent. Élisée ne choisissait pas cela et il renonce même à son privilège de prophète. Ok, il n'a pas eu le réflexe d'aller immédiatement les aider à couper du bois, mais dès qu'on le lui a demandé, il n'est pas monté sur ses grands chevaux. Il ne s'est pas offusqué en disant « Écoutez, moi, j'ai écarté le Jourdain en deux. Hein. Écoutez, moi, je vous ai guéri la marmite. Hein. Donc, tranquille, ce n'est pas moi qui vais aller couper votre bois. Hein. » vous le faites, et puis moi, je fais les miracles. Hein, d'accord ? Jamais il n'a agi et répondu de cette manière-là. Parce qu'il n'y a pas de privilège dans la communauté de foi, il n'y a pas de protocole pour les pasteurs, et si un jour, dans cette église, on a un rôle et des tours de ménage, je demande à ce que l'ensemble des anciens et des responsables soient les premiers à être inscrits chaque début de mois, car nous sommes une communauté de foi, et il n'y a pas un statut particulier parce qu'un tel a reçu un don d'enseignement ou je ne sais quoi pour vous apporter la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous souvenir, en lisant un tel texte, que si Élisée lui-même, le grand prophète, était prêt à se mettre au même niveau que les autres dans les tâches quotidiennes et insignifiantes de l'Église, aucun d'entre nous ne devrait se considérer au-dessus de cela. Et vous voyez, là encore, il y a un appel à l'humilité, un appel à la régularité, un appel au service qui est sous-jacent, qui est implicite dans ce texte que nous lisons. Nous avons besoin de nous servir les uns les autres, de plier le genou devant les uns les autres et de nous engager à venir. Chaque fois que vous renoncez à vous engager pour la communauté de foi, pour des décisions personnelles ou pour votre propre confort, vous privez l'Église de vos dons. Alors bien évidemment, il y a un équilibre à avoir dans tout cela, mais en quelque sorte, nous sommes appelés en tant que communauté à donner notre vie les uns pour les autres, à nous aider les uns les autres quand il y a un déménagement. Et je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je déménage le 12 septembre prochain. Je suis en train de vous dire ça parce que je suis triste que dans le passé, certains d'entre nous ici se soient retrouvés seuls pour faire leur déménagement ou aient dû appeler des déménageurs. On est une cinquantaine et on n'est pas capable de prendre le temps de s'aider les uns les autres. Est-ce que votre frère ou votre sœur ne vaut pas un jour de congé, sérieusement ? C'est une question que je soulève et que je pose à haute voix. Nous sommes une communauté de foi, nous allons bien plus loin que nos réunions du dimanche. Nous sommes un groupe et une collectivité, et nous devrions nous souvenir que cet engagement va bien plus loin que nos prières du mercredi ou nos rassemblements du dimanche. Oui, ce sont des moyens de grâce, chers amis. Oui, ce sont des journées spéciales et importantes, parce que ce sont dans ces journées-là que vous puiserez la bénédiction nécessaire pour faire ce qui est nécessaire de manière pratique le reste de la semaine, y compris pour aller récurer les toilettes de l'église ou vous réunir ensemble pour vous servir les uns les autres en tant que croyants. Et c'est ce que nous avons besoin de nous souvenir, nous, les croyants occidentaux. Vivre au Québec, c'est le fun, pas vrai ? Le fun. J'ai travaillé toute la semaine et le week-end, je prends du fun, n'est-ce pas ? Et oui, c'est bien. Dieu nous donne de toutes choses en abondance pour que nous en jouissions. Il y a toutes sortes de plaisirs légitimes sur cette terre. Mais je vais vous dire un truc. L'Évangile consiste à glorifier Dieu de cette manière, de ce que tous les plaisirs terrestres que nous pouvons expérimenter légitimement, on puisse en user d'une manière qui montre que Christ et son Église sont un plaisir plus grand encore. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous. Il y a énormément de pierres qui peuvent se dresser dans ce chemin. L'amertume, le découragement, ou encore, tout simplement, la lassitude, la fatigue. Mais le jour vaut la chandelle, chers amis. Il y a autant de bénédictions à passer du temps les uns avec les autres dans des aspects pratiques de la vie d'église qu'à venir le dimanche écouter une excellente prédication textuelle qui va vous laisser repartir avec le cerveau plein. Nous avons besoin de nous souvenir de ces choses, et si même le prophète Élisée s'est donné pour les autres, à combien plus forte raison devrions-nous le faire nous aussi ? Nous en arrivons à la véritable crise de ce récit. Vous savez que dans une section narrative, je vous l'ai déjà dit, il y a toujours un déroulement, une préparation, une contextualisation du récit, puis vous avez la crise, le point d'orgue et la résolution de la crise. Et la crise, elle arrive au verset 5, comme un des prophètes abattait une poutre, ou plutôt un arbre pour entailler une poutre, eh bien, le fer de son outil tomba dans l'eau. C'est donc une perte matérielle. Voilà les faits. On voit que les prophètes, ils se sont rassemblés ensemble et donc ils abattent des arbres, ici probablement avec un genre de hache, je suppose, le texte ne précise pas le nom de l'outil, on sait que c'était une pièce de métal avec un morceau de bois, c'est ce qu'on découvre à travers du texte. Et donc ce prophète, pendant qu'il est en train de couper avec cet outil, cette hache, il voit que le fer de sa hache ou le fer de cet outil s'échappe et tombe dans l'eau. Comprenez bien que la première réaction qu'on a quand on a ce style d'accident, c'est de se dire « Heureusement qu'il n'y a pas de blessé. Apparemment, ici, le fer de hache n'a touché personne, il a peut-être ricoché sur quelque chose, mais la finalité, c'est qu'il soit tombé dans l'eau. Personne n'est blessé, on se dit, super, nous les lecteurs du 21e siècle, on lit ce texte, on se dit, c'est juste un morceau de fer dans de l'eau, ça va. Aucun enfant n'a été touché, aucun adulte n'a pris le tranchant de la hache sur lui, personne n'est blessé, tout va bien. Mais le prophète est complètement démoralisé. Il dit, ah, mon Seigneur, ah, comme une lamentation. En anglais, c'est alas, tristement, vous voyez. Ce fer était un emprunt. Et la situation, donc, est présentée par notre texte comme tragique. Pourquoi est-ce que cette situation est tragique ? Il y a au moins deux raisons. Première raison, parce que le fer, c'était un matériau qui était rare et onéreux. On est au 9e siècle avant Jésus-Christ, je vous le disais, et on est dans une période qui s'appelle l'âge du fer. Avant, on était plutôt dans l'âge du bronze, en 1200 avant Jésus-Christ à peu près. La plupart des outils et des matériaux au Moyen-Orient étaient faits avec du bronze. Mais au 9e siècle, le fer, c'est le matériau par excellence. On fait des armes, on fait des ustensiles. Bref, c'est un matériau que tout le monde connaît et utilise, mais qui nécessite beaucoup de préparation et qui est très cher. Très cher et très dur à acquérir pour les pauvres. Les pauvres ne pouvaient pas s'acheter du fer à l'époque. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'avais Noël qui arrivait, mes parents m'achetaient des jouets. Et moi, je dois vous l'avouer, j'étais jamais satisfait. Noël après Noël, je me disais, j'aurais bien aimé avoir ça, ça, ça en plus. Alors mes parents m'apprenaient la modération, m'expliquaient les choix. Et souvent, ils me répétaient, ils me disaient, tu sais, nous, Guillaume, quand on était petit, pour Noël, on avait juste une orange. Vous voyez ? Et oui, l'orange, on ne s'en rend pas compte, il fut un temps où c'était un produit de luxe. Et certaines familles n'étaient pas en mesure de se payer une orange. Et vous remontez dans le temps, à chaque époque, vous retrouverez des produits de luxe. Et des fois, vous n'aviez même pas les moyens de vous payer le moindre produit, tout simplement parce que c'était la famine ou la disette dans certaines des générations qui sont passées de nos ancêtres. Eh bien, au 9e siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas la Tesla qui est un modèle de luxe, c'est pas la maison à 3 étages qui est un modèle de luxe, c'est simplement avoir un morceau de fer. Le fer était un matériau très cher, très onéreux, surtout en période de disette ou d'oppression. On comprend donc que le prophète y tenait à sa hache. Mais ce n'est pas tout. Cette hache ne lui appartenait pas. Le prophète n'avait pas d'argent pour s'acheter un tel outil. Et il l'avait emprunté ou peut-être loué à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, l'outil est perdu et notre prophète, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Eh bien, il va devoir rembourser. Mais s'il n'avait pas d'argent pour se le payer, il n'a pas d'argent pour le rembourser et il va se retrouver dans une situation exactement similaire à celle de ce prophète mort qui laisse une dette à sa veuve. Deux Rois 4, vous vous souvenez certainement de ce récit qu'on a regardé ensemble. Donc ce n'est pas aussi anodin que ça peut nous paraître à nous, lecteurs du 21e siècle. Il y avait un vrai problème pour ce prophète. Il savait qu'à cause d'un morceau de fer, alors qu'il voulait aider la communauté, il allait probablement se retrouver dans une situation particulièrement difficile. Alors naturellement, ce prophète, cet homme de la communauté, il crie à l'homme de Dieu, à Élisée, et clairement, en indiquant ces paroles-là, le texte nous montre que cet homme espère un miracle. Et de toute façon, s'il n'y a pas de miracle, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? C'est comme si toi, on t'avait prêté une Tesla, la meilleure Tesla, que tu n'es pas assuré, que tu as un accident avec et que tu dois la rembourser, tu sais que tu vas y passer ta vie, tu sais que ton existence va être hypothéquée. Et encore une fois, à cette époque-là, vous n'aviez pas de commission de surendettement, vous n'aviez pas la possibilité de faire une faillite. C'était une situation particulièrement difficile. La dette passait aux enfants. Souvenez-vous de ce prophète dans 2 Rois chapitre 4. Les créanciers venaient, après la mort de l'homme, pour prendre les enfants et les réduire en esclavage. Voilà comment ça se passait à l'époque. Mais Élisée, encore une fois, ne se fait pas, laisse pas impressionner par cette situation. Il se fait indiquer l'endroit où le fer est tombé. Et puis, il coupe un morceau de bois, il le taille, probablement il le taille comme la tige qui était dans le métal initialement, et il jette le tout dans l'eau à l'endroit où le fer est tombé. Et le texte nous dit que cette action va faire littéralement surnager le fer. Autrement dit que le fer, un métal lourd, s'est retrouvé d'un seul coup à flotter en surface, de sorte que le prophète, il a juste à tendre la main, comme s'il allait attraper un morceau de bois ou une bouée ou je ne sais quoi, ou un morceau de polystyrène sur l'eau, ramasser le fer et le ranger dans ses outils. J'ai été vraiment surpris de lire le nombre de commentateurs qui essayent d'expliquer qu'en fait, ce n'est pas un miracle, mais que le texte nous reflète la sagesse d'Élisée qui, se faisant indiquer où était l'outil, plonge avec une perche et essaye de le récupérer avec un morceau de bois. Ça paraît tellement improbable que dans de l'eau, tu arrives à aller repêcher le morceau de fer. Et si tu arrives à le faire avec une perche, pourquoi quelqu'un n'a pas plongé pour essayer de le récupérer ? Bref, quand un commentateur parle de la sagesse du prophète qui sonde les eaux boueuses avec une longue perche, ça ne paraît pas vraiment en rapport avec ce que dit notre texte. Ici, le texte présente clairement l'action d'Élisée comme un véritable miracle. Le fer, qui est un métal très lourd, eh bien, il ne peut pas flotter à la surface de l'eau. C'est donc, en réalité, quelque chose de bien plus fort qui se produit ici. C'est un véritable renversement des propriétés naturelles des objets. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait en termes de miracle, mais vous avez un métal lourd qui normalement coule dans l'eau, qui se retrouve à flotter directement à la surface de l'eau. Élisée montre une nouvelle fois qu'il est capable, avec son Dieu, de venir au secours des siens. Voilà pour ce que court récit et voilà ce que l'on découvre dans ce texte. Et je pense que ce texte, très simple finalement, il n'appelle pas réellement à un commentaire élaboré en profondeur, à une analyse profonde de ce texte, mais il appelle à deux remarques de conclusion que j'aimerais vous donner maintenant. Première remarque, c'est un récit qui est finalement anodin, rien de spécial, hein, comme je le disais. Je veux dire, construire un lieu de vie, perdre un outil, expérimenter une déconvenue financière, n'est-ce pas des choses par lesquelles nous pouvons tous passer ? N'est-ce pas des choses par lesquelles nous sommes déjà tous passés ? Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs dans cette salle, qui n'a jamais perdu un outil ? Moi, je ne suis pas bricoleur, j'en ai cassé, j'en ai perdu, je me suis énervé avec des outils. Vous savez bien que ça fait partie du quotidien. Et le message de ce texte, c'est que Yahweh est là, même dans de telles circonstances, même dans celles qui nous paraissent les plus anodines. Nous le savons dans un certain sens. Je lisais hier, vous savez, les mèmes sur Facebook, il y a une page qui s'appelle « Karl Barth for Dummies ». Vous voyez, c'est tellement drôle ce qu'ils mettent sur cette page. Et il y a une personne qui a payé un encart publicitaire aux États-Unis sur fond noir, où il marque en anglais une parole de Dieu en disant « Pensez à renouveler votre imagination, j'en ai assez d'entendre vos prières pour des places de parking, signé Dieu, vous voyez ?» Ça m'a fait vraiment rire parce que à la fois, on oublie Dieu dans les choses les plus simples de cette vie, et en même temps, souvent, on ne prie que quand on n'arrive pas à trouver nos clés qu'on a perdues ou nos places de parking, on en oublie les choses extraordinaires de Dieu. Mais aussi, parfois, quand on se retrouve dans des situations qui sont sans espoir, c'est seulement dans ces moments-là, n'est-ce pas, qu'on va invoquer le nom de Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que dans ce texte, le nom de Yahweh n'est pas mentionné une seule fois ? Il semble complètement silencieux. Tout est opéré par le prophète. Je veux dire, c'est exactement comme dans vos moments les plus anodins de votre vie. Un problème relationnel au travail, un souci matériel, un bébé qui pleure. Croyez-moi, on connaît ça, nous, en ce moment. Toutes ces choses qui font que votre existence est marquée par un besoin de Dieu. Et je peux vous témoigner, frères et sœurs, qu'un mercredi, je suis arrivé à la réunion, c'était il y a 2 ou 3 semaines, tellement énervé par les pleurs de mon fils, et de venir devant vous et de vous dire « Élodie et moi, on n'y arrive pas, on a besoin de vos prières, vous avez prié, je suis rentré, le bébé dormait. » La grâce de Dieu intervient aussi dans la manifestation de ces petites choses dans lesquelles Dieu agit. Dieu n'est pas absent. Et nous pouvons crier à lui comme le prophète a crié vers Élisée. Nous avons un libre accès au trône de la grâce, une porte ouverte vers le Dieu qui contrôle absolument toutes choses, pas seulement les conditions climatiques, pas seulement les grandes décisions géopolitiques, mais aussi l'outil que vous avez perdu, le bébé qui pleure chez vous, ou les petites tâches de votre vie sur lesquelles vous vous dites « je peux gérer ça tout seul ». Mais il y a ici un appel. Vous ne pouvez pas gérer tout seul. Dans toutes vos circonstances, même les plus insignifiantes, tournez-vous vers ce Dieu. Deuxième remarque. Ce récit, mine de rien, contient bien plus que les soucis matériels de ce prophète qui a perdu une hache. On assiste ici à un miracle. On assiste à du fer qui flotte à la surface de l'eau. Qui a jamais vu une chose pareille ? Qui a observé un tel truc ? Et je crois que, au-delà de toute chose, nous devrions nous souvenir que les lois de la nature sont entre les mains de Yahweh. C'est facile à dire. Il a créé ce monde, il le maintient, c'est grâce à lui que la terre est ferme, qu'elle ne chancelle pas et que nous pouvons aujourd'hui nous lever dans un monde qui tient malgré tout le mal que nous faisons à ce monde et malgré que pour un rien, pour le moindre décalage d'une donnée particulière de gravité, ou si la Terre était un tout petit peu plus grande, ou si simplement le feu qui est en Amazonie en ce moment, ou en Afrique, était plus intense, on pourrait tous mourir du jour au lendemain. Il suffirait d'un rien pour que ce monde nous engloutisse, mais Dieu le maintient parce qu'il règne aussi sur les lois de la nature, et elles sont dans la main de Yahweh. Et à l'heure où on voit ce monde qui brûle, où toute chose part en déliquescence, où la télévision, si vous la regardez, est particulièrement alarmiste sur ces questions de climat, et je ne suis pas de ceux qui vont vous dire que c'est une fake news ou que c'est une conspiration, je pense que réellement l'activité humaine dans ce monde crée des problèmes au monde créé, c'est un fait aujourd'hui. Mais même si ces choses sont vraies, armons-nous de cette vérité. Même les lois de la nature, celles qui régissent notre monde, sont dans les mains de Dieu. Ces lois par lesquelles la terre et tout ce qu'elle contient existent. Toutes ces choses sont soumises au contrôle de Dieu. Il ne peut rien arriver que Dieu n'ait décrété. Et s'il le décrète, c'est pour la manifestation de sa gloire et aussi pour notre bien. N'ayez donc pas peur de vous tourner vers un tel Dieu dans de telles circonstances. Il est le Dieu des moments insignifiants comme il est le Dieu des grandes batailles. Il est le Dieu des haches perdues comme il est le Dieu des résurrections. Il est le Dieu de vos soucis quotidiens, de vos problématiques familiales, de vos problèmes d'argent. Tout peut lui être apporté au pied de la croix. Ce Dieu-là règne, alors confions-nous en lui. Prions. Seigneur, ce texte sur lequel nous pouvons passer rapidement nous rappelle néanmoins la nature de qui tu es, Seigneur, par laquelle tu choisis d'entrer en relation avec des personnes qui ne le méritent pas, et ces personnes, tu prends en main leur vie pour les conduire, les protéger et les diriger, Seigneur, afin de manifester ta grandeur, ton amour, ta bienveillance et ton contrôle absolu sur toute chose, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous souvenir que nous pouvons, Seigneur, nous confier en toi, même dans les circonstances les plus insignifiantes à nos yeux. Que tu es le Dieu de toutes choses, y compris celui des places de parking, Seigneur, mais aussi des grands enjeux de notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, de nous souvenir de toi au quotidien. Chaque seconde, à chaque heure, augmente dans notre cœur cette volonté de vivre en dépendance avec toi. Et accorde-nous ta grâce pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.